Bonjour, mon nom est Michel Pion, actuel président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au Balado humaniste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous M. Romain Gagnon. M. Gagnon est un ingénieur diplômé de Polytechnique. Entrepreneur, il a notamment travaillé dans les secteurs de l'électronique, de l'informatique, mais également en production agricole, conseil fiscal, en boulangerie biologique. Il a publié 3 ouvrages. Le premier, Vivre mince, gourmand et en santé, en 2004, et L'homme créa Dieu à son image, en 2019. Et le dernier, dont nous allons discuter aujourd'hui, qui est Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Alors, Romain et moi, on se connaît un petit peu quand même. Donc, je vais tutoyer Romain, à moins que tu aies une objection. Ton dernier ouvrage, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine, est, comme tu le mentionnes toi-même, tout sauf politiquement correct. Il porte un regard très critique sur plein de sujets, pour le moins contentieux. Je les énumère ici rapidement, mais tu parles d'intégrisme religieux, de conspirationnisme, de climato-scepticisme, d'idéologie du genre, d'obésité, j'en passe. Le moins qu'on peut dire, c'est que il jette un gros pavé dans la mare de beaucoup de concepts qui semblent vouloir prendre beaucoup de place dans le discours public. A priori, tu as déjà certainement répondu souvent à cette question, mais je te la pose quand même. Tu as à la base une formation d'ingénieur, bien que si on regarde ta biographie, tes ouvrages précédents, tu t'es intéressé à plein d'autres sujets. Mais dans le cas du dernier ouvrage, Vers l'abrutissement de l'espèce humaine, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre?
Merci, Michel. Écoute, j'ai écrit ce livre-là parce que je m'inquiète sérieusement pour l'avenir de notre société. J'ai choisi 6 thèmes d'actualité. J'aurais pu en choisir plus, j'aurais pu en choisir moins, mais j'en ai choisi 6 qui me troublent tout particulièrement. Par exprès, j'ai pris 3 thèmes qui nous proviennent de l'extrême droite, puis j'ai pris 3 thèmes qui nous viennent de l'extrême gauche. Bien entendu, un livre aurait pu être écrit sur chacun de ces thèmes-là. Et d'ailleurs, dans le passé, comme tu l'as mentionné, j'ai déjà écrit 2 ouvrages qui traitent plus spécifiquement de 2 des 6 thèmes. Les 6 thèmes, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Mais mon originalité, si tu veux, là, ma contribution, c'est justement d'établir un parallèle entre 6 sujets qui ne semblent pas partager de points communs. En fait, j'en trouve un dénominateur commun. On peut appeler ça la déchéance de la rationalité. Ou si tu veux, dans des termes un peu moins polis, le titre de mon livre, L'abrutissement de l'espèce humaine. Alors, j'ai écrit le livre pour tenter de sensibiliser la population à ce dérapage de la pensée-là. Et en réalité, je dis tout haut ce que plein de gens pensent tout bas, mais n'osent plus dire à cause de la censure. En fait, j'y dénonce dans mon livre un mal que j'appelle la tyrannie des minorités. Dans toute bonne séance de brainstorming, on dit que ça prend 10 idées saugrenues pour accoucher d'une idée innovatrice. Donc, en soi, le fait que des groupuscules sociaux expriment des idées alternatives, c'est sain. Ça nous permet de pas rester prisonniers du statu quo puis du conformisme. Ça nous permet de continuer à évoluer comme société. Mais là où le bas blesse, c'est que ces groupuscules-là se voient accorder une attention médiatique démesurée par rapport à leur représentativité. Ce qui donne la fausse impression que leurs idées ont déjà été dédouanées socialement et qu'elles font autorité. Alors ce mécanisme, qui est intimement lié aux réseaux sociaux, on y reviendra, permet d'outrepasser le filtre critique de la société et ce faisant, nous rapproche dangereusement de la dictature.
Ah, d'accord. On va essayer de passer un petit peu au travers des différents sujets que tu couvres dans le livre. Je ne sais pas si on va tous les passer, mais on va essayer quand même. Le premier chapitre de ton livre parle du retour de l'intégrisme religieux. Il y a plein d'exemples qui viennent en tête, puis tu les mentionnes par ailleurs. On voit de plus en plus de gens qui se rebellent contre des régimes théocratiques. L'exemple là, du combat des femmes en Iran me vient en tête. Aux États-Unis également, on voit des conservateurs chrétiens au pouvoir passer des lois qui suppriment des droits qui semblaient acquis, pense ici là en particulier au droit à l'avortement. Ces dernières années, c'est surtout l'islam et l'islamisme qui retient l'attention quand on parle de violence et de terrorisme. Mais en même temps, parallèlement à ça, on constate une augmentation croissante du nombre de personnes qui se déclarent sans religion. Et malgré cela, les religions luttent pour conserver leurs privilèges. On n'a qu'à penser aux réactions qui suscitent ici et ailleurs au Canada le projet de loi 21. Selon toi, est-ce que la raison, la pratique de la pensée critique et le bon sens et, j'ajoute, l'humanisme, vont finir par avoir raison des mythes religieux ou est-ce que, selon toi, la partie est perdue d'avance?
Bon, Marx, Nietzsche, Freud, puis plusieurs autres philosophes avaient prédit aussi la disparition des religions au 21e siècle, mais malheureusement, le temps leur a donné tort. Depuis le début du siècle, la foi revient en force. Imaginez-vous qu'au 21e siècle, il y a des gens qui font des pressions pour enseigner le créationnisme dans les écoles. Adam et Ève. Les pays musulmans, tu l'as mentionné, se radicalisent. Le bon exemple, c'est les événements qu'on vient de vivre en Iran avec le hijab. Mais aussi aux États-Unis, là, juste au sud, avec l'avortement. Une loi là, qui date, une jurisprudence qui date des années 70 là, concernant l'avortement qui est renversé. Il y a une recrudescence de l'homophobie. Bref, on n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression de reculer. Les penseurs du siècle des Lumières doivent se retourner dans leur tombe. Mon explication, en fait, mon hypothèse d'explication, c'est que l'omniprésence de la technologie dans notre société insécurise les gens et ceux-ci trouvent refuge dans la religion, en croyant des fables puériles qui datent du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le phénomène de la religion s'est élargi. On a vu naître, depuis le début du siècle, de nouvelles religions, notamment le conspirationnisme, le wokisme, le véganisme. Quand on analyse le profil psychologique des tenants de ces mouvements-là, ça ressemble drôlement aux croyants des religions. J'ai l'impression, au fond, que l'être humain moyen n'aime pas réfléchir. Qu'il est intellectuellement paresseux, à tout le moins spirituellement paresseux. En adhérant à une pensée dogmatique, aussi saugrenue qu'elle puisse être, là, l'humain évite l'effort de réfléchir. Il évite la douleur de se questionner sur les grandes questions existentialistes de tous les temps, genre d'où vient l'univers, d'où vient la vie, à quoi rime notre existence. C'est clair qu'une poignée d'intellectuels s'est toujours intéressée à ces questions, mais jamais vraiment la masse. Le hic, c'est qu'avant, la masse restait silencieuse. Mais aujourd'hui, comme l'a si bien dit Feu Umberto Eco, et si tu me permets, je vais le citer, les réseaux sociaux donnent le droit de parler à des légions d'imbéciles qui ne parlaient auparavant qu'au bar après un verre de vin, sans nuire à la communauté. Ils étaient immédiatement réduits au silence, alors qu'ils ont désormais le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles.
Tu consacres aussi, justement un petit peu dans la même lignée de ce que tu discutais, tu consacres tout un chapitre de ton livre au conspirationnisme. On a vécu et on continue de constater que cette manie est encore bien en vie sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à penser à toute la mouvance anti-vax là, qu'on a vécue dans les dernières années. Aux États-Unis, où il y a un pourcentage non négligeable de la population, incluant un président sortant qui clame haut et fort que la dernière élection présidentielle a été trafiquée. Avec le résultat qu'une meute de miliciens autoproclamés a cherché à investir le Capitole et renverser le résultat d'élections démocratiques. Et ça, c'est sans parler des disciples de QAnon et d'autres théories farfelues qui circulent. Plusieurs blâment cet engouement-là, tu en as déjà parlé un petit peu, sur l'omniprésence des réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi?
Ben d'abord, je ne crois pas que Trump ait déjà cru que l'élection lui a été volée. Encore moins qu'il adhère aux théories abracadabrantes de QAnon. Je suis pas même certain qu'il croit en Dieu, honnêtement. Je pense que Trump a l'étoffe d'un dictateur. Et tout bon dictateur exploite les faiblesses intellectuelles du peuple à ses fins politiques. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les religions ont été inventées. Puis c'est pas un hasard s'il y a une corrélation géographique et historique intime entre l'intégrisme religieux et la dictature. Pour peu qu'on connaisse l'histoire. Le conspirationnisme ne date pas d'hier, hein, mais ce phénomène-là est accentué par les réseaux sociaux. Le conspirationnisme, en fait, c'est une psychose analogue à la foi religieuse qui repose sur l'apophénie. L'apophénie, c'est un biais cognitif induit par l'anxiété qui consiste à établir des relations imaginaires entre des événements. J'aime toujours donner l'exemple d'une de mes tantes. C'est qu'à un moment donné, elle s'est acheté un micro-ondes un jour et elle l'a utilisé. Et cette journée-là, elle a eu mal aux dents. Donc, elle était convaincue que son mal de dents venait du micro-ondes. Alors, elle a revendu le micro-ondes, elle ne l'a plus jamais réutilisé de sa vie. Ça vous rappelle un peu des parallèles avec les anti-vax, bon. Les réseaux sociaux fonctionnent avec des clics, hein? On sait comment ça fonctionne. On clique sur ce qu'on préfère. On préfère ce qui nous conforte et non ce qui nous confronte. C'est comme ça que la publicité sur les réseaux sociaux fonctionne. Mais ça a quelque chose d'insidieux, c'est que ça polarise les opinions, voire ça les radicalise. Parce que celui qui, déjà, d'en partant, a un penchant à droite, va se faire servir du matériel de droite, puis ça va le radicaliser à droite, et vice-versa pour celui qui est à gauche. Donc, le centre est en train de se vider, en réalité. Et ça permet à des idées, saugrenues au départ, d'acquérir une notoriété de par leur grande diffusion. Parce que la triste réalité, c'est que la plupart des gens réfléchissent pas. Les gens répètent. Alors, à force d'entendre que la Terre est plate, certains finissent par y croire. À force d'entendre que le vaccin tue, certains finissent par y croire. Les gens répètent. Les gens sont des perroquets. Toute religion classique, christianisme, islamisme ou religion moderne, conspirationniste, wokiste ou véganiste, est au fond une perte de contact avec la réalité. Cette affection porte un nom en psychiatrie. Ça s'appelle une psychose.
C'est un peu comment dire, un biais de confirmation, c'est-à-dire que on recherche uniquement de l'information qui vienne conforter ce qu'on pense déjà. Peut-être qu'on devrait forcer Facebook et les autres réseaux sociaux parce qu'il y a les fameux algorithmes hein, sur Facebook. Quand on pense, si on s'intéresse à un sujet, Facebook va automatiquement nous envoyer des choses qui conforte ce qu'on a déjà écrit. Mais peut-être qu'on devrait forcer les réseaux sociaux à envoyer des informations contraires justement pour forcer les gens à réfléchir. Mais ça, c'est juste un petit aparté que je fais là,
Bien,
mais
si tu veux, je peux
oui.
rebondir là-dessus. Je pense que les problèmes des Facebook et Google et Amazon et autres de ce monde-là, ils sont en conflit d'intérêts. Parce que leur modèle d'affaires est basé sur les clics. Fait que va falloir que le gouvernement ait son mot à dire là-dedans, là. C'est-à-dire que. Puis ils ont commencé. Regarde la réaction de Google récemment, là. Le gouvernement canadien a comme projet de forcer Google à mettre du contenu local. Puis une des réactions de Google, c'est de commencer à bloquer l'accès à l'information à certains Canadiens. C'est un bras de fer-là, là. On en a connu un similaire au début, dans les débuts du capitalisme. À un moment donné, c'était du capitalisme sauvage. Il a fallu que les gouvernements établissent des règles. On l'a revu, ça, quand l'URSS est redevenue la Russie, puis est redevenue capitaliste. Ces fameuses règles-là, nous, qu'on avait mis en place 100 ans avant, eux autres, peut-être pas tout à fait, un peu moins, mais quand même, eux les avaient pas. Ils ont été obligés de faire du rattrapage. Puis on a vu ce que ça a donné entre les deux. Il s'est créé un nombre record de milliardaires en Russie pendant cette période-là. Okay? Fait que je pense que tout phénomène social qui est nouveau, comme les réseaux sociaux, comme ça, il faut que il y a tout le temps une inertie dans le système politique puis judiciaire qui fait en sorte que il y a tout un délai avant que les gouvernements se revirent de bord, comme on dit en bon québécois, puis légifèrent, tu sais. Fait que je pense que c'est inévitable.
J'ai beaucoup aimé dans le livre le chapitre sur le climato-scepticisme. Il y a une partie que tu appelles des fausses solutions. Ensuite, tu mentionnes ce que l'on trouve, bon, des solutions alternatives ou des vraies solutions. Si on commençait, pour donner une idée aux gens, là, par les fausses solutions, est-ce que tu peux nous en donner des exemples?
Certainement, au Québec, fermer les lumières en hiver. On entend ça souvent. Hey, laisse pas les lumières fermées, économise l'énergie. Je m'excuse, mais à moins que vous ayez une thermopompe, là, fermer une lumière en hiver au Québec, ça donne absolument rien. Parce que l'énergie calorifique dégagée par la lumière, c'est de l'énergie en moins que le calorifère va en refourner. On entend même ne pas faire réchauffer son moteur d'automobile en hiver. Il y a même une loi, un règlement, dis-je, à Montréal, qui donne une amende quand on le fait. Mais savez-vous quoi? Partir avec son moteur à froid en hiver, c'est 100 fois plus polluant que de ne pas le faire, que de réchauffer pendant 2-3 minutes son moteur avant de partir. Pourquoi? Parce que le convertisseur catalytique, là, il y a des métaux rares là-dedans qui font une action catalytique, d'où le nom de l'appareil, qui font en sorte que toutes les NOx, SOx là, sont convertis. Pour que le catalyseur fonctionne, il faut qu'il soit chaud. Quand il est froid, il ne fonctionne pas. Donc, tous les gaz d'échappement, là, évidemment, le CO2, on n'y échappe pas. Le monoxyde de carbone, puis le dioxyde de carbone, ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas les éliminer. Mais les SOx, les NOx, qui proviennent d'une combustion incomplète au début, bien, en contact avec les métaux catalytiques, bien, ils se transforment et deviennent moins toxiques. Les véhicules lourds électriques. Bon, le monde s'imagine que tantôt, là, tous les véhicules vont être électriques. Là. Ça ne tient pas la route, ça, pour ne pas faire de jeu de mots. Je pense que c'est bien clair que l'hydrogène vert est un avenir beaucoup plus réaliste pour tout ce qui est autobus, puis fardier, puis véhicules lourds. Le véganisme est un autre exemple, qui est pas écologique, mais dans la tête de tout le monde, c'est écologique. Puis un dernier exemple, c'est la concentration urbaine. On est contre l'étalement urbain. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que un centre-ville, même un robot essaie de le rendre le plus écologique qu'il soit, ça sera jamais écologique qu'un centre-ville. Je dis pas que la banlieue est écologique en ce moment, c'est pas ça que je dis, mais je dis qu'il y a moyen de la rendre écologique, par exemple. T'sais, tandis que rien à faire qu'un centre-ville, là, une tour à béton, là, ça sera jamais écologique.
En fait, tu as déjà commencé à en parler, mais peux-tu donner un exemple? Là, tu parles de vraies solutions. Bon, ces solutions-là reposent sur quoi?
Bon, ben évidemment, pour les véhicules standards, les automobiles personnelles, l'électricité, c'est une bonne solution. Je l'ai dit tantôt, pour tout ce qui est véhicules lourds, l'hydrogène vert est beaucoup plus approprié. L'hydrogène vert, en passant, c'est de l'hydrogène qui est fabriqué à partir de l'eau et qui a pas, il est vert dans le sens qu'il n'y a pas de production de gaz à effet de serre quand il est produit, OK? Le nucléaire, c'est bien dommage. Au Québec, on a fermé notre seule centrale nucléaire. On avait une expertise, puis on va la perdre à cause de ça. Je dis pas nécessairement qu'il faut faire le nucléaire comme on le faisait avant, surtout avec les tensions internationales qui réaugmentent. C'est sûr, c'est une vulnérabilité d'un point de vue stratégique, une centrale nucléaire, mais le nucléaire a évolué. Il y a moyen de faire des centrales aujourd'hui plus petites, plus sécuritaires, moins polluantes, surtout que la fusion, plutôt que la fission atomique. On diminue de beaucoup là, la longévité des déchets nucléaires comme ça, parce que le problème des anciennes centrales, c'est un peu ça. Les déchets, ça prend des centaines d'années avant qu'ils deviennent plus radioactifs. Mais tantôt, quand la fusion va être au point, il n'y en aura plus de déchets radioactifs. Ça va prendre un réseau intelligent, un réseau électrique intelligent, puis hybride, c'est-à-dire qui repose à la fois sur le solaire, l'éolien, le nucléaire, l'hydroélectricité, intelligent dans le sens que, ben, quand ils ventent, ben, on sauvegarde nos réservoirs d'eau. Ou quand il fait soleil, ben, c'est là qu'on prend notre énergie. Mais qu'on prend juste le nucléaire, puis finalement, puis l'hydroélectricité quand on n'a pas le choix. Tantôt, j'ai parlé de banlieues qui avaient le potentiel de devenir écologiques. Ben, en fait, je parle ici d'éco-quartiers où on centralise la gestion de l'énergie. Au lieu que chaque résidence ait sa thermopompe, parce qu'on s'entend, une thermopompe, c'est pas mal plus écologique que du chauffage traditionnel, qui soit au gaz ou à l'électricité, on pourrait très bien imaginer avoir une thermopompe géothermique. Parce que ça, c'est beaucoup plus efficace qu'une thermopompe classique. Surtout au Québec, là, quand il fait moins 20 dehors, une thermopompe, là, c'est plus efficace du tout. Mais une thermopompe géothermique, l'avantage qu'elle a, elle, c'est qu'elle va chercher son énergie, sa chaleur ou son froid, selon le cas, selon la saison, dans le sol. Alors, il faut savoir qu'au Québec, là, quand on creuse 2 mètres, là, il fait 10. Même si on est au mois de juillet ou au mois de janvier, il fait 10. Fait que c'est facile. En été, si on veut mettre la maison à 25, ben, on a une source de froid à portée de main, là. Puis en hiver, l'inverse. S'il fait moins 25 dehors, on veut garder la maison à 20. Ben, pour partir de 10 aller à 20, c'est un petit écart comparé à partir de moins 20 à plus 20. Alors, ça coûte cher une thermopompe géothermique, mais à partir du moment qu'on la centralise, puis qu'on fait circuler une boucle de glycol, par exemple, dans toutes les maisons du quartier, ben là, les coûts, seraient pas mal moindres. Bon, mon point que je veux faire dans mon livre, c'est que le problème de l'environnement n'est pas technologique, il est politique. Les solutions existent. J'en ai donné quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Okay? Alors, moi, je pense que la solution numéro un, c'est la taxe sur le carbone. Parce que si vous mettez la taxe sur le carbone en place, une vraie taxe sur le carbone, pas un semblant d'eux, bien, automatiquement, le reste va suivre. Tu sais, c'est un peu comme dans le temps, je me rappelle quand j'étais petit, je passais sur la 40 dans l'est de Montréal pour aller au chalet de mes grands-parents et ça puait. Ça puait, c'est les raffineries de Montréal-Est. Aujourd'hui, ça pue pas. Les raffineries sont encore là. Mais la technologie qui permet que ça pue plus, là, elle existait aussi avant. Sauf que le gouvernement a mis ses culottes puis a mis des normes. Mais à partir du moment que vous avez une taxe de carbone, là, automatiquement, la main invisible de l'économie, combinée à la technologie, va faire le travail. Je vais donner des exemples concrets. Okay? Si on met une taxe de carbone de 100 euros par tonne de CO2, ou dollar américain, c'est à peu près la même chose en ce moment, l'euro et le dollar américain, ça suffirait à rentabiliser une centrale électrique au gaz qui serait carboneutre. Bon, là, on vante l'hydroélectricité, par raison, mais c'est pas tout à fait carboneutre, mais ça l'est beaucoup, l'hydroélectricité. On inonde des territoires, on augmente la quantité de mercure dans l'eau, etc. Mais on pourrait très bien prendre une simple centrale au gaz, là, au pétrole ou au gaz. Puis quand on fait la combustion pour créer l'énergie électrique, ben on absorbe le CO2. Au lieu de le laisser aller dans l'atmosphère, on l'absorbe et on l'enfouit. Alors, une taxe comme ça, là, serait suffisante, parce qu'il y a un coût à ça, évidemment, vous devinez, là, si on le fait pas, il y a une raison, c'est parce qu'il y a un coût. C'est politique. Mais si la taxe est élevée au point que ça devient, c'est le point mort, là. C'est-à-dire que ça devient, la centrale fait pas plus d'argent à vendre de l'électricité qui est carboneutre, puis de l'électricité qui ne l'est pas. Mais de façon naturelle, elle va vendre l'électricité qui est carboneutre. Puis qu'est-ce que ça représente, une taxe de 100 dollars US par tonne de CO2? Ça représente l'équivalent de 27 cents par litre sur l'essence à la pompe. C'est pas la fin du monde, ça. On a connu une hausse plus élevée que ça durant la pandémie, là. Ou, par rapport à l'électricité, c'est une augmentation de 1,7 cents du kilowatt-heure pour l'électricité. Big deal. On paye 10 cents du kilowatt-heure aujourd'hui au Québec. On a déjà payé 5 il n'y a pas longtemps, on est rendu à 10. Vous allez me dire que les Québécois seraient pas prêts à payer 2 cents de plus? Je crois pas ça. Puis le problème serait réglé. Il y a des technologies qui existent aussi carrément, pas juste pour séquestrer le gaz carbonique à la sortie de la combustion, mettons, d'une centrale électrique, mais carrément pour séquestrer le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Même Shell avait proposé, laissez-nous continuer à vendre du pétrole, mais on va le vendre plus cher, puis la différence de prix, on va la prendre, puis on va pré-capturer à l'avance le CO2 que l'essence qu'on vous vend dégage. C'est drôle, ça. Aucun gouvernement a pris la balle au bon. Pourtant, les pétrolières font leur part ici, là. Pourquoi qu'on arrêterait de vendre? Moi, je dirais, ben, arrêtons pas de vendre de l'essence au Canada, mais soyons innovateurs. Disons à l'avenir. C'est sûr que quand le marché du pétrole est bon, on peut pas faire ça. Déjà, ça a pris du temps avant que le Canada vende son pétrole parce qu'il est extrait des sables bitumineux. Son coût d'extraction était beaucoup plus élevé que le marché. Mais là, entre-temps, le marché a augmenté. Ça a rentabilisé nos sables bitumineux. Ben, allons donc une étape plus loin, puis vendons donc du pétrole carboneutre. Comme ça, Gino, là, avec sa grosse Camaro, là, il n'y aura plus de complexe. Il va pouvoir rincer son char, ses coins de rue, sans problème de conscience, parce qu'il va se dire, j'ai prépayé ma taxe de carbone sur l'essence que j'ai achetée. Après, il paye mon show de boucan au coin de la rue. Moi, je pense qu'on ne peut pas compter sur la bonne foi des gens pour l'écologie. La main invisible de l'économie est beaucoup plus puissante. Alors voilà, ça, c'est essentiellement, c'est le concept que je développe. Puis ça, en passant, la dernière idée, Michel, là, c'est 80 cents de plus du litre pour faire ça. Pour acheter 80 cents US, par contre. Donc, un peu plus qu'un dollar canadien de plus du litre qu'on aurait de l'essence carboneuse.
Effectivement. Puis ça peut-être que ça encouragerait les gens aussi à utiliser davantage le transport en commun pour les petites distances. En tout cas, je dis ça
Ben,
comme
laissons les gens choisir. T'sais, moi, je vendrais même à la station-service, je vendrais les deux. L'essence
ça. Ah
carboneuse, puis je vendrais l'autre. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a bien des gens qui mettraient l'essence carboneuse. Puis
pas
s'il y a des
sûr.
gens qui se plaignent que l'essence coûte trop cher, ben c'est ça. Ils prendront le transport en commun, propulser l'hydrogène vert.
C'est très intéressant, ça donne beaucoup à réfléchir. On va passer à un autre chapitre, si tu veux bien, sur la théorie critique de la race. Là non plus, tu n'y vas pas de main morte, là. On entre, je pense, si clairement là, dans le territoire de la pensée woke. Tu vas même jusqu'à les traiter de nouveaux fascistes. Ce qui m'inquiète, ce courant de pensée semble avoir infecté les universités, mais aussi nos gouvernements. Leur approche semble être le refus de la discussion et la cancellation, comme on dit, de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. À les entendre, nous sommes tous coupables par le seul fait d'avoir eu le malheur de n'être caucasien, ce qui nous rend coupables par association de tous les malheurs de la civilisation. Est-ce possible, selon toi, de rétablir un semblant de discussion ouverte avec les woke, avec cette idéologie-là de plus en plus omniprésente?
Comme on dit, celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter. Nos jeunes ignorent vraisemblablement l'histoire parce qu'ils la répètent. En particulier, l'histoire du communisme avec la révolution bolchevique au début du siècle dernier. L'idée du communisme est née du constat des lacunes du capitalisme, comme l'idée du wokisme est née du constat du racisme. Donc, l'intention est bonne, mais comme le vieil adage le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tous ceux qui n'adhéraient pas aux communistes durant la révolution bolchevique étaient rabroués, voire socialement cancellés, et éventuellement emprisonnés. On brûlait les livres qui étaient contraires à la doctrine du parti. On renommait les noms de villes. On réécrivait l'histoire. Vois-tu le parallèle? On reproduit actuellement la même histoire. On censure des épisodes des Filles de Caleb. On brûle des bandes dessinées de Tintin. On cancelle des humoristes comme Julien Lacroix. Grâce à notre woke en chef, Justin Trudeau, le gouvernement fédéral actuel institutionnalise le racisme envers les hommes blancs hétérosexuels. Par exemple, on bloque volontairement l'accès des postes de chercheurs universitaires aux hommes blancs hétérosexuels. Noir sur blanc. Malheureusement, on ne répare pas une injustice passée en créant une injustice au présent. La leçon qu'il aurait fallu retenir, c'est de cesser toute discrimination. Et c'est bien de valeur, mais la discrimination positive, ça demeure de la discrimination. On justifie moralement la discrimination positive au nom des quotas, mais c'est une très mauvaise idée. Par exemple, si on a un conseil d'administration de 20 personnes, on veut avoir 10 femmes et au moins un autochtone, puisque les autochtones représentent 5% de la population canadienne. Mais qui vous dit que les Autochtones s'intéressent au conseil d'administration des banques? Des études psychologiques démontrent, d'ailleurs, qu'en général, les femmes s'intéressent moins au conseil d'administration et aux postes de haute direction. Ça cadre moins avec leur biologie. Et n'en déplaise, le sexe, c'est quelque chose de biologique. Alors, c'est pas un peu artificiel d'imposer des quotas? La seule chose qui compte, au fond, là, c'est de ne pas discriminer à l'entrée. Et les quotas, c'est-à-dire les proportions seront celles qui seront, mais ils vont refléter les vrais choix des individus et non pas des idéologies qu'on impose. T'sais. On prend l'exemple de la Suède. La Suède, c'est certainement un des pays les plus avant-gardistes en termes de lutte au sexisme. C'est un des pays où est-ce que les barrières à l'entrée sur le marché du travail pour les femmes ont tombé le plus vite. Et pourtant, selon le discours woke, on devrait s'attendre, par exemple, en Suède, à retrouver 50% de femmes infirmières, 50% de femmes infirmiers, puisque 50% de femmes dans la population. Alors, logique, simpliste, c'est ça, là. Mais c'est pas ça qui se passe. La réalité, c'est que en Suède, c'est une des places dans le monde où le personnel infirmier est le plus féminin. Pourquoi? Parce que les femmes, biologiquement parlant, la façon qu'elles sont construites, elles sont plus empathiques que des hommes. C'est un métier qui les charme davantage que les hommes. Puis les hommes, par exemple, eux autres, ça fait des ingénieurs. En général, je dis pas que j'ai des collègues ingénieurs féminins, je m'entends très bien avec elles. Mais il n'en demeure pas moins qu'en moyenne, le génie plaît davantage aux hommes qu'aux femmes. Fait qu'essayer de viser des quotas, c'est complètement simpliste. C'est faire fausse route.
Bon, tu t'opposes également à l'utilisation du terme raciste systémique. T'as pas dû te faire beaucoup d'amis en disant ça. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi?
Bon, faisons un peu d'étymologie ici, là. L'adjectif systémique provient du nom système. Or, le système québécois n'est pas raciste. La loi y interdit même le racisme. Je ne nie pas qu'il y a du racisme à l'échelle individuelle. Il existe partout sur la planète, d'ailleurs, des individus qui sont racistes. Il y en a au Québec aussi. Je prétends qu'il y en a peut-être un peu moins au Québec qu'ailleurs, mais il y en a. Il va toujours en avoir. Mais c'est pas ça du racisme systémique. Du racisme systémique, c'est du racisme incorporé à même le système. Par exemple, au fédéral, la loi sur les Indiens, ça, c'est du racisme systémique. Parce qu'on dit noir sur blanc, basé sur la race uniquement, on traite certains Canadiens, en l'occurrence les Autochtones ici, différemment des autres Canadiens. Uniquement basé sur la race. Les subventions fédérales aussi. Pour les bourses de recherche, puis les emplois dans le domaine de la recherche font de la discrimination systémique contre les Blancs. On lit, noir sur blanc, sans faire jeu de mots, que pour certains postes, récemment c'était un poste dans le domaine de l'histoire, on ne veut pas de Blancs. Dans toute l'histoire du Canada, il n'y a jamais eu un gouvernement aussi raciste que le gouvernement actuel. C'est la première fois qu'on voit ça, là, des offres d'emploi systématiquement racistes qui visent une race. Et là, je viens d'apprendre la meilleure. L'université de Yale dit à ses étudiants que s'ils marchent avec un noir dans la cour, puis qu'il y a de l'eau par terre, le blanc doit enlever son manteau, le mettre par terre pour que le noir puisse marcher dessus pour éviter de se mouiller les pieds. Et c'est pas une blague. On en est rendu là.
Wow. Prochaine question, c'est sur l'idéologie de genre qui maintient que le sexe est une question de ressenti et n'a rien à voir avec la biologie. Que tu peux expliquer ton approche sur cette question, celle que tu développes là, dans ton livre?
Certainement. En fait, biologie 101, il y a deux sexes. XX, XY. Point barre. Il y a des espèces animales qui ont six sexes, mais chez l'humain, là, puis chez les mammifères, il y a deux sexes. Ensuite, le genre, c'est autre chose. Le genre, c'est une construction sociale. On en dénombre actuellement une centaine, puis le nombre continue d'augmenter. Ici, au Canada, en Occident général, un homme a le droit de se promener en talons hauts, si ça l'enchante. Mais pas en Iran. Là-bas, le genre est intimement lié au sexe. Alors, une femme qui veut pas passer sa vie habillée en tchador n'a pas d'autre choix que de changer de sexe. Et de fait, l'État iranien encourage fortement ses homosexuels à changer de sexe, à subir des transitions sexuelles. Ce qui me laisse croire, comme plusieurs d'ailleurs, qu'en fin de compte, l'idéologie du genre est peut-être le nouveau visage de l'homophobie. Il faut voir aussi qu'il y a une lucrative industrie en arrière des transitions de sexe. Au Québec, on a de la misère à obtenir des soins de santé de base. Mais on va aller subventionner des jeunes qui subissent une transition sexuelle parce qu'au fond, ils vivent une crise d'adolescence. Puis qui va encore payer après pour leur détransition rendue à l'âge adulte quand la crise d'adolescence va être passée? Encore les contribuables. On a déjà été adolescent, Toi puis moi, Michel, on a déjà eu des copines dans l'adolescence. C'est un choc pour une adolescente de se voir pousser des seins. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent mal. Dans mon temps, ben, ils portaient des cotons ouatés, larges, ça paraissait pas trop. Rendu dans la vingtaine, j'étais bien heureuse de leur sein, puis là, tout à coup, le coton ouaté prenait le bord, c'était plus serré. Mais bon. Mais là, aujourd'hui, l'adolescente qui est mal à l'aise par rapport à son corps, parce que sa tête ne suit pas son corps, des fois, ils sont pas toujours, ils évoluent pas les deux nécessairement ensemble. Ben, on lui raconte, ah, mais c'est parce que t'es né dans le mauvais sexe. Faut t'opérer. On va tout régler tes problèmes. Ben oui, parce que l'industrie en arrière, qui fait de l'argent avec ça, a convaincu le gouvernement de faire payer ça par la caisse populaire. Alors, c'est payant pour eux autres de tenir ce discours-là. Puis le gouvernement, pour plus intelligent, il marche là-dedans. Ma prédiction, c'est que tantôt, là, ça va nous coûter très cher en détransition, et ça a déjà commencé. Il y a plusieurs pays, dont la Suède, qui ont décidé de faire un moratoire sur les transitions sexuelles chez les mineurs. Comprends-moi bien, Michel, là, je ne suis pas contre les transitions sexuelles pour les gens qui vivent vraiment un phénomène de dysphorie de genre. Mais gardons à l'esprit que c'est quelques dixièmes de pourcentage de la population. Puis la génétique, là, ça aussi c'est biologie 101. Ça change pas d'une génération à l'autre, là. Tu sais, ça prend des milliers, des centaines de milliers d'années avant de voir des changements génétiques. Alors, ça se peut pas qu'aujourd'hui, les gens vivent plus de dysphorie qu'il y a un siècle. La différence entre les deux, c'est le mouvement social. C'est l'espèce de mode actuel, là, tu sais, puis l'espèce de névrose collective dans laquelle on est embarqué. Mais cela dit, les gens, puis j'en connais. J'en ai même invité une à ma conférence aux humanistes. Une femme trans. Et dans son cas, je la crois. J'écoute son histoire, là. Elle a subi son opération à 70 ans. T'as le temps de maturer, t'as le temps de te poser vraies questions sur ton sexe. Je dis pas qu'il faut attendre à 70 ans, mais je pense, alors, ce qu'on peut attendre. Tu sais, l'âge de consommation d'alcool, c'est 21 ans aux États-Unis, 18 au Canada, 18 au Québec, en fait. Je pense que si on n'est pas assez mature pour consommer de l'alcool, on n'est pas assez mature non plus pour prendre des décisions qui ont des répercussions pas mal plus lourdes sur notre santé que de boire de l'alcool.
Enfin, il y a tout un business médical qui, on voit de plus en plus de cliniques là, qui sont spécialisées dans les traitements de ce genre-là. Disons qu'ils sont pas difficiles dans leur traitement là. N'importe qui, je pense, arrive là et clame qu'il est pas dans le bon sexe.
Des fois, là, ça se décide dans une entrevue de 20 minutes. Et là, ils ont passé une nouvelle loi en Ontario qu'un psychologue qui veut faire une psychothérapie auprès de sa jeune patiente pour vraiment évaluer s'il n'y a pas d'autres facteurs qui viennent contaminer sa décision, bien lui, il peut être accusé au criminel.
Ça. Non, le terme que je cherchais tantôt, c'était complaisance. On va passer au dernier chapitre de ton livre, qui traite de l'obésité, des troubles alimentaires. D'ailleurs, tu en connais un bout là-dessus, j'imagine, parce que tu as publié un livre sur le sujet. Mais dans ton livre, tu mentionnes également la banalisation de l'obésité. Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
Oui, en fait, quand j'ai écrit mon premier livre, Vive mince, gourmet en santé, ça c'était en 2004, personne disait que l'obésité c'était bon pour la santé. Tout le monde admettait que c'était mauvais. Alors, mon dernier livre n'est pas un livre sur la nutrition. C'est pas un livre où je vais donner des trucs comment rester mince. Mais c'est un livre qui est plus politique, qui pointe ce phénomène vraiment bizarre-là que aujourd'hui on nie que l'obésité c'est une maladie. Et que c'est dangereux pour la santé. Et c'était particulièrement dangereux aussi durant la pandémie, parce que les gens qui étaient obèses pendant la pandémie étaient plus à risque. D'ailleurs, aux États-Unis, quand on regarde la cartographie de l'obésité, ben, coïncidait avec la cartographie de la mortalité de COVID. Et, incidemment, la cartographie aussi du ce qu'on appelle le Bible Belt, là, des gens croyants, parce qu'eux autres ne prenaient pas le vaccin. Faut comprendre ici, encore une fois, un petit peu comme l'industrie des transitions de sexe, C'est des intérêts financiers qui sont en arrière de tout ça, en arrière de l'obésité, puis en arrière du véganisme. Commençons par l'obésité. On fait de l'argent deux fois avec les obèses. On leur vend de la malbouffe pour les faire engraisser, puis après ça, on fait de l'argent en les soignant. Il est tout à fait scandaleux qu'une revue comme Cosmopolitan s'enrichisse sur le dos des obèses en publiant sur sa page couverture une photo d'une dame qui frise l'obésité morbide, habillée paradoxalement en habit de yoga, puis d'écrire à côté This is healthy. Vous devinez bien qu'ils ont vendu un nombre record d'exemplaires ce mois-là. Puis vous devinez aussi qui les ont achetés. Si le gouvernement mettait ses culottes, là, il devrait faire une poursuite judiciaire contre la revue. Quant au véganisme, on pourra en parler longtemps, c'est objectivement dommageable pour la santé, puisque cette diète-là cause des carences alimentaires, surtout chez les enfants. Tout le monde est pour la vertu. Si en plus on pourrait juste respirer puis se nourrir en même temps, ce serait idéal. Mais ça fonctionne pas. Mais manger de l'herbe, ça fonctionne pas non plus, on n'est pas des vaches. Je vais donner un exemple très très concret. L'acide gras oméga-3 de docosahexaénique, qu'on appelle aussi plus communément l'acide sarbonique. Ça, c'est une substance que le corps humain ne synthétise pas, ou très 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 peu, et qu'on ne retrouve dans aucune plante. J'entends tout de suite les végans qui m'écoutent qui vont dire, il sait pas de quoi qu'il parle, lui, on trouve l'oméga-3 dans les graines de lin. Non. Dans les graines de lin, c'est l'oméga-3 à 18 atomes de carbone, acide linoléique alpha. Les deux acides que je parle, là, la docosahexaénique, c'est 22 atomes de carbone, DHA, puis l'autre entre les deux, c'est AEP. Ces deux-là, l'AEP puis l'ADH, dis-je, DHA c'est en anglais, l'ADH, la poule la synthétise. Les végétariens synthétisent. Une poule, on lui donne des graines de lin, puis elle fait des oméga-3. Fait que quand vous allez à l'épicerie, vous voyez ça, E oméga-3, là, puis c'est marqué dessus. L'œuf oméga-3 standard, c'est 75 mg d'ADH et AEP. C'est une poule à qui on a donné la graine de lin, donc de l'acide linoléique alpha à 18 atomes de carbone, puis elle a le métabolisme pour le synthétiser à 20 puis à 22. Alors, c'est extrêmement important pour un végétarien de consommer des œufs oméga-3 parce que ça compense ses carences, parce qu'il ne mange pas de poisson, végétarien, ça compense ses carences en oméga-3. Mais le végétalien, il n'y a pas de porte de sortie. En fait, oui, il y en a une. C'est les microalgues. Mais là, quel végan sait ça qu'on peut trouver de l'ADH dans les microalgues et en quelle quantité? Il faut avoir un PhD en nutrition pour le savoir, puis encore. Alors, faire la promotion d'un tel régime alimentaire, c'est socialement irresponsable. C'est comme donner un gun avec un enfant puis dire va t'amuser. C'est socialement irresponsable. Les parents qui imposent le véganisme à leurs enfants devraient être accusés au criminel. Je mange pas mes mots, au criminel. C'est de la maltraitance. À la limite, tu sais que quelqu'un, rendu à l'âge adulte encore, pas à 14 ans, à 21 ans ou 18 ans, comme pour les transitions sexuelles, décide d'être végan, après tout, ça le regarde, c'est son corps. Mais imposer ça à des enfants qui sont venus au monde, puis pour qui le parent devrait faire ce qu'il y a de mieux, là, ça c'est inacceptable. Ça devrait être dans la loi. Interdiction de forcer les jeunes au véganisme. Et les dommages sont d'autant plus grands parce que c'est le développement de leur cerveau quand ils sont jeunes, puis ils ont besoin de beaucoup d'ADH pour ça. Et un phénomène qu'on voit souvent, tu sais, la fameuse dépression postpartum. Quand on fait la cartographie de la dépression postpartum aux États-Unis, on réalise que c'est surtout au centre des États-Unis. Sur la frontière, en fait, la côte sud, la côte, pas, côte sud, la côte est puis la côte ouest, il y a très peu de dépression postpartum. Il y en a très peu aussi, sinon pas. Phénomène qui n'existe pas au Japon, dépression postpartum. Devine pourquoi. Je pense que tu as deviné pourquoi. Parce que au centre des États-Unis, ça mange du blé d'Inde et des patates frites. Sur les côtes, ça mange plus de poissons. La dépression postpartum, c'est que la mère qui allaite, tout ce qu'elle a comme réserve d'ADH, elle transmet à son enfant via le lait maternel et elle se crée des carences. Et comme on a besoin, je le disais plus tôt, de l'ADH pour notre santé mentale, une carence en ADH, notamment, ça rend dépressif. Alors, devine, moi, toutes les mères véganes que je connais, après l'accouchement, ils sont en dépression nerveuse. Ben oui, je ne cherchais pas de midi à 14 heures, mais on permet ça. On reste beau croisé. J'ai beau envoyer des articles dans des quotidiens que je nommerai pas, avec des preuves factuelles, des références scientifiques. J'invente pas ça, là. Dans mon livre, toutes les références sont là. Je pense que j'en ai 100 références. Les études scientifiques sont toutes là. Fait que, lisez-les. Les preuves sont là. J'invente rien. Mais pourquoi que nos politiciens dorment au gaz puis permettent ça? Comment ça se fait qu'en partant, nos nutritionnistes permettent ça? C'est inacceptable. On a même modifié, merci Justin Trudeau, le guide alimentaire canadien, parce qu'avant ça, il disait que ça prenait tant de portions de viande. Là, ça dit tant de proportions de substituts de viande. Mais c'est pas vrai. Ça se substitue pas de la viande. Puis, dernier point par rapport au véganisme, contrairement à ce qu'on peut croire, le véganisme n'est pas écologique. Je dis pas que l'industrie d'agriculture traditionnelle l'est non plus. Mais il y a moyen de rendre l'industrie traditionnelle plus écologique. Mais ça, c'est comme la taxe de carbone. La technologie est là. Le problème est avec la politique, encore une fois. Parce que le gouvernement pourrait très bien imposer des normes qui rendraient l'agriculture non polluante. Mais là, surveillez le panier d'épicerie, par exemple. Ça va exploser. Mais on est rendu là. Je pense qu'on n'aura pas tellement le choix. Et il y a une troisième voie aussi qui existe, qui s'appelle l'entomophagie. Parce que autant c'est pas naturel pour un être humain de manger juste du végétal, un être humain peut très bien se nourrir à partir d'insectes et ne manquer de rien. Et l'élevage d'insectes, ça fait à l'intérieur de façon beaucoup plus écologique que l'agriculture traditionnelle, mais plus écologique aussi que le véganisme, parce que ça pollue ni l'eau, ça pollue ni l'air. Puis d'ailleurs, la cote protéique, ou le coefficient d'efficacité protéique de la nourriture issue de l'entomophagie, dépasse même les meilleurs steaks. Évidemment, déjà en partant. Et ça me fait toujours rire quand t'entends les végans, la plupart, ils manquent de connaissances, là. Ils comparent les fiches nutritives, puis ils se gardent. J'ai autant de protéines ici, dans ce que je mange, dans mon tofu, que dans ton steak. Ben oui, c'est vrai, t'as autant de protéines, mais t'oublies un gros facteur, ça s'appelle le coefficient d'efficacité protéique. Tes protéines, genre, si tu as un facteur de 2 entre les deux, ça veut dire qu'il faut que tu manges deux fois plus de tofu pour avoir le même effet que le steak. Maintenant, si on mange plus pour avoir les mêmes nutriments, qu'est-ce qui se passe? L'excédent va où? En surpoids. Fait qu'en plus, le véganisme fait engraisser. J'entends déjà des gens me dire, non, tous les végans que je connais sont maigres. Ben oui, c'est parce que les premiers végans, c'est des autorexiques. C'est des gens là, très contrôlants qui contrôlent leur alimentation. C'est une déviation de l'anorexie, ça. Alors, c'est sûr, comme ils sont très contrôlants, ils sont minces. Mais la prochaine génération, là, la génération de végans qui s'en vient, monsieur, madame, tout le monde, pas les intellectuels, là, les monsieur, madame, tout le monde qui vont devenir végans, surveillez bien ça, la vague d'obésité qui s'en vient. Parce qu'on mange des calories vides. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, Michel, mais moi, je suis inondé de publicités sur Facebook sur le véganisme. Peut-être aussi, c'est un petit peu parce que je leur réponds. Je me suis posé la question, mais où est-ce qu'ils prennent leur argent pour financer tout ça, là? Et j'ai eu un petit peu mes réponses récemment. J'ai réalisé, en creusant un petit peu, en faisant mes recherches, comme on dirait un anti-vax, que l'industrie est derrière les militants végans. Ils les payent pour donner des conférences, les payent pour se promener dans le monde, prendre l'avion, etc. Faut comprendre ici qu'il y a certains industriels qui ont tout intérêt, mode, vegan se répandre. Et on parle évidemment Monsanto. Pas tout seul. Pourquoi Monsanto? Parce qu'est-ce qu'ils vendent Monsanto dans la vie? Ils vendent des pesticides, puis ils vendent des engrais chimiques. Évidemment, vous aurez compris que dans le modèle de véganisme, on ne met plus de fumier sur les fraises, hein? Parce qu'il n'y a plus de fumier, il n'y a plus d'élevage. Donc, si on ne peut plus mettre d'engrais naturels, forcément, il faut mettre des engrais issus des énergies fossiles. Et l'inconvénient de ces engrais-là, c'est que ça tue la biomasse du sol. Parce que faut réaliser qu'il y a beaucoup plus de vivants dans le premier mètre de terre arable que de vivants qui se promènent par-dessus sur la planète au complet. Même si, au fond, la superficie de terre arable sur la planète est relativement petite, là. Tu sais, si on enlève les océans, puis on enlève les deux pôles, Il reste pas grand air arable. Puis malgré ça, dans le premier mètre, ce que les Anglais appellent le topsoil, là, il y a plus de biomasse là-dedans que tous les mammifères, oiseaux, etc. Alors, malheureusement, quand on met des engrais chimiques, on tue cette biomasse-là. Et dans le sol, il y a toutes sortes de micro-organismes, dont certains champignons qui vivent en symbiose avec les plantes. Et quand on les tue, les plantes attrapent toutes sortes de maladies, puis deviennent plus vulnérables aux insectes, etc. Donc là, il faut compenser des pesticides. Donc, qui dit véganisme dit monoculture, engrais chimiques et pesticides. C'est rien d'écologique. L'agriculture la plus écologique demeure encore, pas l'agriculture industrielle, mais le petit paysan, t'sais, qui utilise le fumier de ses vaches pour nourrir ses légumes, qui utilise ses vaches pour brouter, qui déplace ses vaches. Donc, les vaches mangent l'herbe. L'herbe capte le CO2 de l'air et c'est une roue, là, t'sais. Évidemment, j'en conviens que c'est pas ce qu'on fait dans l'agriculture intensive. On fait pousser du soya, puis on nourrit les vaches au soya. Ça, c'est nouveau. On faisait pas ça il y a un siècle. Mais la vraie bonne agriculture traditionnelle, quand les vaches mangeaient de l'herbe, quand les vaches étaient dehors, là, aujourd'hui, on rentre les vaches en dedans pour les nourrir au grain. Mais quand on fait des choses comme elles devraient être faites, l'agriculture traditionnelle n'est pas si polluante que ça, là, en fin de compte, là. En tout cas, elle est pratiquement carboneuse. Évidemment, il y a le problème du méthane. Il y a dégagement de méthane, puis le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Mais en termes de CO2, là, c'est quasiment carboneutre, là. Fait que, donc, c'est ce que je voulais mentionner aussi, que c'est beaucoup d'intérêts financiers derrière le véganisme. Mais les gens sont naïfs. Ils pensent que les industriels les subventionnent pour la bonne cause. L'industrie privée, là, il y a une seule bonne cause. Ça s'appelle le bottom line sur l'état des résultats. Voilà.
J'aimerais mentionner que Romain fait une conférence au Centre humaniste du Québec sur le même sujet en novembre 2022. Alors, si vous désirez en savoir plus sur son livre, je vais mettre un lien sur la vidéo de la conférence dans la description du balado. Également, vous pouvez vous procurer son livre Vers l'abrutissement de l'espèce humaine en librairie et également sur le site de Monsieur Gagnon, dont je vais mettre le lien également dans la description du balado. Alors, merci Romain d'avoir pris le temps de nous parler, c'est très apprécié. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web, assohum.org, c'est assohum.org, ou sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Alors, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.